C'est le tout dernier Raphaël à l'instant sur Neuve. L'association Gelmav, c'est le thème, enfin l'un des thèmes évidemment que vous allez aborder maintenant avec vos invités Emmanuel jusqu'à 13h dans les rendez-vous de midi.
Avec ce sujet particulièrement d'actualité aujourd'hui, je pense qu'il le sera toujours. Les choses bougent enfin, suffisamment, c'est sans doute encore une question, mais a priori on avance sur la question de l'accompagnement de fin de vie. On a beaucoup avancé, on va le voir hein, ces dernières années aussi, avant la présentation d'un projet de loi, bientôt ouvrant la voie à une possible aide à mourir pour les personnes en fin de vie qui en feront la demande. On va découvrir ensemble l'association qui accompagne depuis un an maintenant des personnes en fin de vie sur l'île de Noirmoutier. C'est donc Gelmav, son antenne noirmoutrine, avec nous Christine Loubens et Caroline de Cacré. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour, bonjour docteur de Cacré. Même à la retraite, on dit toujours bonjour docteur.
Peut-être.
Vous êtes médecin à la retraite, engagé dans l'association, avec une expérience, on peut le préciser, de plusieurs années dans ce domaine en tant que médecin.
Oui, j'ai travaillé à Paris en soins palliatifs pendant 15 ans et ensuite au ministère de la Santé. Et j'ai pris ma retraite à Noirmoutier il y a 5 ans avec l'idée de monter une antenne Gelmav jusqu'à la mort, accompagner la vie sur l'île de Noirmoutier en dépendant de Gelmav Vendée qui est notre région préférée.
Avec un siège, on va dire, à La Roche-sur-Yon.
Tout à fait.
Mais vous avez donc cette antenne effectivement ici, et vous l'avez évoqué en deux mots, au ministère de la Santé, vous avez été sollicité, vous l'êtes encore je crois, hein, sur ces questions inhérentes à celle de la fin de vie, de l'accompagnement.
Plus en réflexion éthique personnelle ou en groupe, mais sur Noirmoutier, nous avons essayé de créer une équipe pour accompagner les personnes en fin de vie, personnes âgées ou personnes isolées et fragilisées.
Et vous insistez à Gelmav, vous êtes bénévole et pas médecin.
Non.
C'est important ça.
Voilà, on a toutes les deux, Christine et moi, suivi une formation de bénévole avec à peu près 60 heures de formation et ensuite un tutorat de bénévole dans les services hospitaliers avant de s'inscrire sur Noirmoutier.
Alors l'association Gelmav, vous l'avez dit, ça fait partie de cette fédération du même nom, c'est un acronyme, hein, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous investir dans cette démarche particulière? Alors, peut-être déjà vous, effectivement, Caroline.
En fait, Gelmav, jusqu'à la mort, accompagner la vie, a été créé en 83 par le professeur Scherer, qui était cancérologue, et par Jeannine Pillot, qui était une psychologue qui intervenait en cancérologie. Et donc la fédération comprend à peu près 60 associations au niveau national, avec à peu près 2000 bénévoles formés aujourd'hui. Et nous, Noirmoutier, nous nous sommes attachés à Gelmav Vendée, où nous sommes maintenant 6 bénévoles sur Noirmoutier. Et en Vendée, il y a à peu près 2070 bénévoles formés sur le territoire de Vendée.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous investir dans cette association en particulier?
Parce qu'elle n'existait pas sur Noirmoutier et que je pense qu'accompagner les personnes en fin de vie avec de l'empathie et avec de l'amour et de l'écoute améliore la fin de vie.
Et alors vous, moi je vais me tourner vers vous, Christine Loubens, qui avait été patiente. Qu'est-ce qui... Alors vous êtes depuis le départ hein, dans l'association, en tout cas sur l'antenne de Noirmoutier. Et c'est donc Caroline Cacré qui vous a investi.
Oui, tout à fait. C'est à la fois par amitié, je dirais, mais surtout aussi au départ par intérêt. Le fait d'avoir accompagné mes parents en fin de vie pendant quelques années m'a fait prendre conscience vraiment de la fragilité et de la vulnérabilité des parents et puis de toute la famille autour. Et ce sujet de la mort, qui est un sujet douloureux, pénible, dans la mesure où il nous renvoie à nos propres craintes et nos propres peurs, m'intéressait d'autant plus qu'avec Caroline, qui a été un peu le leader pour la constitution de l'équipe sur Noirmoutier, nous pouvions entreprendre quelque chose sur l'île de Noirmoutier dans son ensemble.
Alors
je voulais dire qu'effectivement, nous sommes actuellement 6 bénévoles. Moi, je suis la coordinatrice et en lien avec les autres antennes de Vendée, nous essayons de développer le plus possible depuis avril 2023 une présence de Gelmav pour toutes les personnes qui le demandent.
Sur l'île, on va voir effectivement comment vous vous déployez, quelles sont vos actions précises. Pour bien comprendre, vous l'avez dit, c'est en 83 que Gelmav est créé à Grenoble autour de soignants. Et dès le départ, la thématique, c'est on est laïque, on est aussi indépendant hein, de l'institution hospitalière. C'était évidemment fondamental, ça l'est toujours aujourd'hui.
Toujours. En fait, c'est une association qui est laïque, apolitique. Et l'objectif, vraiment, c'est l'accompagnement, l'écoute, l'empathie, avec le respect pour la personne qui est en face de vous, en fin de vie, la dignité, le respect de la vie et surtout la solidarité, empêcher que cette personne décède seule et non accompagnée.
Ce qui est arrivé, là, ça encore beaucoup, j'imagine. En 1986, la circulaire dite Laroc, alors ça j'ai pris les informations sur le site de Jalmav, la fédération qui raconte son histoire, la circulaire donne mission au système national de santé de développer les soins palliatifs. Alors Jalmav va évoluer. Dès 87, ces 8 associations alors formées vont se réunir dans une fédération, et dans les statuts on a deux directions. La première, susciter dans la société un changement des mentalités face à la mort. Alors aujourd'hui on est en 2024, il y a quand même près, plus de 40 ans, hein. Le sujet il est encore complexe. Est-ce qu'on a changé quand même nos mentalités face à la mort, de votre expérience?
Oui, d'abord il y a eu aussi deux lois après la circulaire, la première loi Leonetti, la deuxième de 2016 qui était la loi avec Claes et Leonetti, avec donc deux personnes de droite et de gauche qui ont travaillé sur comment améliorer la fin de vie en France, que ce soit en milieu hospitalier, à domicile, et cette loi donne surtout aux patients, pour une fois, le droit de décider de sa mort, c'est-à-dire par les directives anticipées, par la désignation de la personne de confiance, d'anticiper les soucis de fin de vie.
On va en parler de ces directives qui sont évidemment importantes, mais qui ne sont pas toujours encore exprimées, parce que c'est peut-être difficile à un moment donné de se positionner en se disant on va le faire plus tard peut-être.
Elles étaient peu connues avant 2016, il y avait 2% de directives anticipées au niveau de la population, au niveau national. Et maintenant avec la loi de 2016 qui a du mal à se faire connaître, a du mal à être appliquée, on monte je crois à 12 ou 15% de directives anticipées.
C'est rien du tout.
Mais en fait le but c'est pas tellement que ces directives anticipées soient remplies, c'est surtout que les public soient informés qu'elles existent et qu'ils puissent réfléchir à leur mort. Le but, ce n'est pas de les remplir, mais c'est d'en parler avec sa famille, d'en parler avec son médecin, d'en parler avec tout le monde pour justement dédramatiser le sujet de la mort. L'objectif, ce n'est pas forcément de les remplir, c'est vraiment d'y avoir réfléchi. Qu'est-ce qu'on veut au moment de sa mort ?
On touche évidemment à des questions qui sont existentielles, personnelles, vous l'avez dit, on est tous confrontés forcément à ça, à des angoisses profondes aussi, c'est un sujet que vous étudiez depuis des années.
Oui, mais c'est vrai qu'en parler, c'est pas parce qu'on parle de la mort qu'on va mourir tout de suite. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à la personne. Et au contraire, ça permet aux personnes accompagnantes et aux personnes de la famille, le fait d'en avoir parlé, on a déjà beaucoup de peine quand la personne décède, mais on a essayé de préparer quelque chose après la mort. Et ça, c'est important.
Et alors, quelles sont les problématiques sur ce sujet des mentalités, peut-être des croyances en tout cas, mais en tout cas des mentalités, ou de ce sujet tabou que vous avez rencontré au cours de vos expériences?
Bah, c'est surtout le sujet beaucoup peur de souffrir, peur de la mort. Donc en fait, c'est comme si on essayait d'approcher la mort, de l'évoquer, et c'est pas parce qu'on en parle qu'elle fait peur. Et c'est comme si on s'appropriait un peu la mort. Pour les patients quand on en parle, ou pour les personnes en fin de vie, et même pour les familles, de le préparer, d'évoquer que ça peut arriver, ça dédramatise un petit peu.
Alors il y a un point aussi, oui, sur lequel je voulais insister dans le prolongement de ce que Caroline dit, c'est que je trouve qu'à travers les actions que nous entreprenons sur Noirmoutier, à l'EHPAD, enfin on y reviendra tout à l'heure, et à l'hôpital de Noirmoutier, il y a aussi beaucoup le sentiment pour la personne qui est en fin de vie de peser sur sa famille et d'être une charge. Et donc une solitude qui vient renforcer peut-être la fin de vie et les questions que pose la fin de vie, mais ce sentiment de ne plus servir à rien et d'être une charge. Et là, il y a, je pense, tout un travail de douceur et d'accompagnement que Jalmav peut mettre en route et mettre en place.
Et ce qui est important, on va le voir effectivement, c'est que non seulement vous accompagnez les personnes en fin de vie, mais aussi les familles. Donc c'est un travail commun que vous proposez. C'est d'ailleurs le deuxième axe qui a été pris par Jalmav dès 1987, proposer aux malades, à leurs familles, cet accompagnement centré sur une attitude d'écoute. Et vous avez été d'ailleurs formé pour ça. On va en reparler dans 3 minutes. Comment ça se passe concrètement sur l'île avec vous dans 3 minutes.
Donc. Juste après, Olivia Ruiz et le sel.
Mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent, il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents,
Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment.
Extrait de son nouvel album, c'était Le Sel. Jusqu'à 13h, la suite des rendez-vous de midi dans nos studios. Aujourd'hui, Emmanuel, vous recevez Christine Loubins et Caroline de Cacré.
Voilà, qui ont lancé l'antenne Noire Moutrine de l'association Jalmalve. Jusqu'à la mort, accompagner la vie depuis un an maintenant. On évoquait l'axe de l'association, l'accompagnement d'individualités, hein, de malades, de familles aussi. Vous avez donc commencé sur l'île il y a un an. Comment ça se passe exactement, l'émission de Jalmalve?
Alors, à partir du moment où nous avons été formés, nous avons pu avoir à disposition un local par la mairie de Noirmoutier qui nous permet d'assurer une permanence tous les vendredis de 10h à minuit. Et là, nous pouvons recevoir les personnes qui veulent avoir des renseignements. Donc ça, c'est un premier axe.
Tous les vendredis?
Tous les vendredis.
Alors, il est où le local?
À Grainsel, l'espace Grainsel, près de la poste,
oui.
À Noirmoutier, exactement. À côté de cette permanence habituelle, nous intervenons maintenant grâce aux conventions que nous avons signé, parce que c'est bien à partir d'une convention signée entre Jalmave, Vendée et l'hôpital. Nous intervenons tous les lundis à l'hôpital de Noirmoutier, où là, en lien avec les cadres de santé, nous nous rendons auprès des personnes qui ont demandé ou qui ont besoin, selon le personnel soignant, de notre présence. Ça, c'est le lundi après-midi. Et ensuite, nous intervenons aussi le mardi à l'EHPAD de l'Estran à la Guérinière. Pareil, en lien avec les cadres de santé et la directrice de l'EHPAD. À ce moment-là, nous nous rendons dans les chambres des uns et des autres, selon les besoins.
Donc c'est quand même un travail actif toutes les semaines. Hein, c'est...
Toutes les semaines, voilà. De façon régulière, exactement. Alors nous avons beaucoup d'autres projets aussi, mais peut-être que ça sera dans un second temps que vous voulez aborder
bon,
ça.
On peut les évoquer dessus
parce
déjà.
Que c'était pour revenir au sein de cette permanence grain de sel par rapport à ce que Caroline disait au niveau des directives anticipées et de la désignation de la personne de confiance. Nous voudrions développer des ateliers où les gens puissent être informés en amont, avant même que leurs parents soient en fin de vie, expliquer en quoi consiste la personne de confiance et les directives anticipées. Et ça, de façon régulière, une fois par mois, on espère avoir des personnes que l'on puisse informer sur ce que cela suppose et représente.
Elles sont importantes, ces directives. Vous disiez seulement 12% pour l'instant de la population se sont
voilà, mais avant la loi de 2016, c'était 4%. Là, ça a quand même bien évolué. Ce qui est important, ces directives anticipées, c'est qu'on soit malade ou pas malade, il y a deux possibilités, et c'est d'évoquer sa fin de vie, d'évoquer avec son médecin traitant, et c'est une information et une réflexion. Ça ne se remplit pas du jour au lendemain, c'est un long cheminement de réflexion.
Mais alors, quand on n'a pas communiqué avec sa famille, avec ses proches, hein, sur ce qu'on souhaite, hein, pour sa fin de vie, c'est la grande majorité, a priori, quand même aussi. Alors, on peut ne pas avoir écrit de directive, avoir parlé à ses proches, mais j'imagine que vous avez beaucoup de cas de personnes qui n'ont pas du tout évoqué ce sujet.
Alors, oui.
Comment est-ce quand on voit une personne proche qui arrive en fin de vie, comment est-ce qu'on peut réagir
plus c'est anticipé. Et mieux c'est, parce qu'il y a plus de sérénité. Le fait d'en parler, c'est on ne va pas mourir. Et le fait de l'évoquer avec ses proches, ça permet à ses proches aussi d'anticiper, de réfléchir et d'admettre certaines choses.
Et donc, vous invitez en fait les familles effectivement à communiquer avec la personne malade.
C'est le contact avec le personnel soignant ou la DMR ou les infirmiers ou les pharmaciens ou le docteur, etc. qu'on espère faire connaître l'intérêt de cette directive anticipée pour réfléchir en amont et effectivement avec les familles après sur place. Et ça, c'est tout un travail de terrain qu'il faut développer.
Alors j'imagine quand on arrive vraiment à la fin de la vie et que ça n'a pas été exprimé, pour les familles, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent, d'angoisse. On n'ose pas trop en parler aussi à la personne. Est-ce que vous pouvez accompagner ce moment-là aussi?
Alors oui, c'est vrai que les bénévoles de Jalmav, c'est une présence et c'est aussi un accompagnement avec non seulement de l'écoute, mais une présence, comme j'ai dit. Et surtout, c'est quelque chose de bienveillant. On ne porte pas de jugement et on est plutôt à favoriser les échanges.
Donc oui, donc forcément, vous allez nous inviter à plus communiquer, à plus s'exprimer. La question des soins palliatifs aussi, donc dans lesquels vous avez travaillé pendant des années, on le sait aujourd'hui, on en manque cruellement, hein, sur beaucoup de territoires. Ça devrait évoluer. Sur le territoire de l'île de Noirmoutier, on n'a pas de service de soins palliatifs.
Non, mais c'est vrai que la richesse en ce moment pour Noirmoutier, je prendrai l'exemple de l'hôpital de Noirmoutier. Il y a un médecin qui est présent et qui s'est formé aux soins palliatifs. Et donc, pour Jalmav, quand on intervient, ça a été quelque chose qui a favorisé notre présence d'écoute.
Et donc, voilà, vous, ça fait un an maintenant, hein, que vous êtes présente. Vous avez été formée sur pratiquement deux années. Est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui correspond à la formation que vous avez reçue?
Ah oui, tout à fait. Nous avons été bien formés. C'est vrai qu'avant même la formation, il y a quand même un entretien psychologique avec un psychologue qui nous permet chacun personnellement de savoir si c'est une mission bénévole pour laquelle on est apte ou pas, ou si ça renvoie à trop de questions personnelles qui n'ont pas été réglées. Et puis, après ces heures de formation auprès de directrices de maisons de retraite, d'agents hospitaliers, de médecins ou de bénévoles aussi, ça correspond bien à ce que l'on vit aujourd'hui sur le terrain. Donc, mais le plus important étant de tisser des liens au sein des structures, que ce soit les EHPAD ou l'hôpital, tisser des liens avec les personnels soignants. On ne travaille jamais tout seul dans son coin.
Il y a des conventions justement qui existent pour bien définir la relation de l'association Jalmav avec les établissements. Ce que je voulais juste rajouter, c'est effectivement on s'est formé à l'écoute, à l'empathie, mais les formations, on peut toujours continuer à s'améliorer. Donc on a suivi une formation sur le deuil, on a fini aussi une autre formation sur l'accompagnement à domicile. Donc en fait, on peut toujours se former pour s'améliorer.
Alors justement, le deuil, voilà, vous n'accompagnez pas que des personnes en fin de vie ou des familles, mais aussi des familles qui sont marquées par le décès, par le deuil.
Oui, il y a un entretien, un soutien individuel, et donc on a aussi créé à Grain de Sel le vendredi matin un entretien individuel avec les bénévoles de Jalmav et les personnes ayant besoin de parler de leur deuil récent ou non récent.
Donc c'est important de savoir hein, qu'on a cette possibilité effectivement de venir parler.
Parce qu'effectivement, dans le deuil, je me suis rendu compte que très souvent, au bout d'un moment, les personnes qui ont vécu un deuil proche n'osent plus trop en parler et peser sur les amis, sur les relations, etc. Parce qu'elles pensent que c'est un petit peu lourd, et ça fait partie d'ailleurs des différentes phases d'intégration de la personne que l'on aime. Et du coup, le fait que Jalmav, on ne connaisse pas ni les gens, ni l'histoire, ni la vie de ces personnes, aide à être une médiation dans une bonne écoute.
Avec un peu plus de recul peut-être.
Voilà, exactement.
Pour tout le monde. Je vous reçois parce qu'effectivement, on découvre hein, cette association de notre point de vue, et puis sur l'île, et puis il y a une actualité qui est importante, ce projet de loi. Comment vous le regardez de près ou de loin d'ailleurs, ce projet ?
On le suit. On n'est pas partie prenante puisqu'on n'est pas directement sur le terrain. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'on parle d'une aide à mourir. L'aide à mourir comprend l'euthanasie, c'est-à-dire un tiers qui va donner la mort, et comprend aussi le suicide assisté et le suicide médical assisté. Donc, tant que ce n'est pas bien défini, c'est une question de finesse de vocabulaire, savoir quel acte va être mis dans la loi, quelle autorisation.
Et ça, vous êtes, j'imagine, très, très sensible à ces questions précises.
Oui, je pense que bien informer le public de cette nouvelle loi, c'est important. Bien leur expliquer les actes qui seront vraiment décidés.
Alors j'imagine toutes deux que vous avez vécu des moments très forts et marquants depuis un an, voire plus, hein, selon vos activités, ou personnellement d'ailleurs. Si je vous demande un accompagnement en particulier qui vous a particulièrement touché durablement.
Oui, moi je vois un monsieur agité avec une famille qui était auprès de lui, qui avait du mal à communiquer, et le fait d'être en présence neutre, de favoriser l'adoucissement et beaucoup de tendresse, a permis à sa fille d'oser lui parler et à libérer un peu la parole et les gestes d'affection. Et cette personne s'est détendue, et c'était très émouvant quand elle a autorisé son papa en lui disant « Mais papa, je suis là, tu peux mourir. » Voilà, j'ai trouvé que c'était très émouvant et que la fille était très 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 contente d'avoir pu parler jusqu'au bout à son papa.
Et c'était sur l'île de Normandie.
Voilà.
Et vous alors ?
Et je pensais, oui, moi personnellement, j'ai eu à suivre une personne qui était très bouleversée par le deuil qu'elle avait vécu 6 mois auparavant, qui est venue à l'espace Grainsel, donc rencontrée, et qui avait besoin d'une écoute. Elle est restée 1h30, et puis je lui ai proposé si elle voulait de prendre un deuxième rendez-vous. Elle m'a dit oui, et puis finalement elle m'a rappelé en disant, ben non, maintenant ça suffit, c'est bien, vous m'avez écouté, et je vais mieux, disons, donc je suis ma vie.
Si j'imagine que ça vous a fait du bien d'entendre ça.
Oui, tout à fait.
Donc c'est Jalmav, et on a toutes les infos on a un site, déjà le site internet de la fédération, qui va aussi nous emmener, je suis pas sûre que ça nous emmène à Noirmoutier, hein.
Non,
en tout cas
encore.
La fédération mais à la Fédé et à l'antenne de La Roche-sur-Yon, et on a compris, à l'espace Grain de Sel, hein, si on veut plus d'infos, on vous contacte. Il y a un numéro de téléphone hein, pour prendre rendez-vous, c'est le 06 40 11 17 71, et je vais le mettre dans le texte du podcast qu'on va mettre en ligne dans 3 minutes.
Exactement, merci mesdames. Bonne continuation,
merci
évidemment. Merci d'être venu à l'émission, donc en podcast. Demain, nous sommes jeudi, on parle économie comme chaque semaine, le jeudi dans le Nord-Ouest Vendée.
Oui, et on va aller en Pénemont, on va recevoir Céline Vrignot qui est à la tête des campings La Prairie et de le camping Le Salin.
Très bien, c'est demain et en direct évidemment sur Neuve dès 12h35. À suivre, on a Céline Dion, ex-ambassadeur Zeleny Kravitz avec Peggy Gou, et à 13h les infos sur Neuve. Léo Ardourel.